VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour le monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mardi 28 novembre 2023. Au Burkina Faso, attaque djihadiste massive contre la localité de Djibo. Dans le nord du pays, l'ONU fait état de 40 civils tués.
Djibo était encerclé par les terroristes. Ils sont venus avec un nombre très important parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas vu ou senti la présence de ces terroristes.
Un témoin des événements de Djibo à suivre dans la partie magazine. Au Togo, le gouvernement annonce plus de 30 morts dans des attaques terroristes cette année. Au Kenya, la justice annule une nouvelle taxe sur les salaires introduite par le président William Ruto pour financer des logements sociaux. De nouvelles libérations d'otages et de prisonniers sont attendus alors que la trêve est prolongée à Gaza. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. Dans le nord du Burkina Faso, au moins 40 civils ont été tués dans une attaque djihadiste massive dimanche à Djibo. L'armée dit avoir fait au moins 400 morts dans sa riposte selon l'agence d'information du Burkina Faso. Davantage avec Alexandrine Oloignon.
Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a affirmé dans un communiqué qu'un grand nombre de combattants du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a attaqué une base militaire, des maisons et les camps de déplacés internes dans la ville de Djibo, tuant au moins 40 civils et en blessant plus de 42. Selon l'agence d'information du Burkina Faso, plus de 400 terroristes ont été décimés dans la contre-offensive de l'armée, toujours selon la même agence, contre quelque 3000 criminels qui ont tenté de s'emparer de Djibo. Cette ville a été assiégée par les djihadistes pendant plusieurs mois et plusieurs convois cherchant à amener du ravitaillement ont été attaqués. Depuis 2015, le Burkina est pris dans une spirale de violence perpétrée par des groupes djihadistes qui sévissaient déjà au Mali et au Niger voisin.
Au Togo, le gouvernement a dressé le bilan des attaques terroristes dans le pays dans un communiqué lu à la télévision nationale. Jusque-là, les autorités communiquaient au compte-gouttes sur le sujet. Les précisions avec Dili Diko.
Au cours de l'année 2023, le Togo a fait état de 31 morts, 29 blessés et 3 disparus dans des incidents terroristes, a déclaré Yawa Kuigan, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Notre pays a connu une attaque par embuscade, 11 accrochages avec les groupes armés terroristes, 9 engins explosifs improvisés et 20 neutralisations d'engins explosifs improvisés, a-t-elle précisé. Selon la ministre, la première attaque terroriste a eu lieu à Sanluaga en novembre 2021, suivie d'incursions dans la région des savanes, près de la frontière avec le Burkina Faso. En avril, le président Faure Gnassingbé a indiqué que les djihadistes ont fait 140 morts depuis le début des attaques au Togo fin 2021. Le nord du Bénin, du Togo et du Ghana subit des attaques de groupes djihadistes cherchant à descendre vers le sud. La sécurité sera au cœur des élections législatives et régionales qui doivent se tenir au plus tard à la fin du premier trimestre 2024, comme l'a annoncé hier le gouvernement togolais.
Toujours au Togo, l'opposition a estimé ce mardi que la date des élections législatives et régionales prévues selon le gouvernement au plus tard à la fin du premier trimestre 2024 n'était pas réaliste. Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, coordinatrice de la coalition d'opposition dynamique pour la majorité du peuple et seule femme à s'être présentée à une élection présidentielle au Togo en 2010, réclame d'abord le renouvellement de la Commission électorale nationale indépendante dont le mandat a expiré depuis mars ainsi qu'un nouveau découpage électoral pour une représentation équitable des populations. Nous y reviendrons dans la partie magazine. Au Bénin, l'opposition dénonce l'inflexibilité du président Patrice Talon qui a refusé l'amnistie pour les opposants emprisonnés. La grande déception reste la position de M. Talon sur le sort des exilés et des détenus politiques, a déclaré Jude Akodandé, militant des démocrates, seul parti d'opposition représenté à l'Assemblée nationale et présidé par l'ancien président Boni Yayi. Lors de leur rencontre lundi soir, M. Boni Yayi Faye a proposé au président Talon de faire voter une loi d'amnistie parlementaire pour les opposants emprisonnés et permettre le retour de ceux en exil. La prochaine élection présidentielle au Bénin est prévue en 2026. Le ministre sierra-léonais de l'information, Chernor Ba, a déclaré aujourd'hui que les attaques menées dimanche à Freetown étaient une tentative de coup d'État. Nous avons ouvert une enquête pour une tentative de coup d'État qui a échoué, a dit pour sa part le chef de la police, William Faya Selou. Les événements ont fait 21 morts, dont 14 soldats et 3 assaillants, a-t-il dit. 13 militaires et un civil suspectés d'être impliqués dans cette tentative sont en détention. Au Kenya, la haute cour a jugé illégale une nouvelle taxe sur les salaires introduite par le président William Ruto en juin pour la construction de logements sociaux. Les précisions de John Nidon.
Cette loi permettait un prélèvement de 1,5% sur les salaires. Elle a été adoptée en juin pour financer un programme de logement à bas prix. Mais 3 juges de la Haute Cour de Nairobi ont estimé que cette mesure ne s'inscrit pas dans un cadre juridique complet et que l'exclusion des travailleurs du secteur informel est discriminatoire et irrationnelle. Le gouvernement a demandé au tribunal de sursoir pendant 45 jours à l'exécution de son jugement afin de lui laisser le temps de décider de faire appel ou non. Nous sommes enclins à accorder un délai pour une période temporaire en attendant le dépôt d'une requête devant la cour d'appel, a répondu le juge Majanja. Le député et activiste Okiya Omtata Okoiti, à l'origine de la procédure contre cette taxe, a estimé que le tribunal n'a pas le courage de ses convictions et qu'il ferait appel de toute décision qui n'irait pas dans son sens.
La commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva Johansson, s'est dite ce mardi très préoccupée par l'abrogation par le régime militaire nigérien d'une loi criminalisant le trafic de migrants dans ce pays qui est une plaque tournante vers l'Europe. Le régime militaire nigérien a annoncé lundi soir avoir abrogé une loi de 2015 affirmant qu'elle érige et incrimine un trafic illicite, certaines activités par nature régulière et qu'elle a été votée sous l'influence de certaines puissances étrangères. L'armée sénégalaise a saisi plus de 3 tonnes de cocaïne sur un navire au large du Sénégal, l'une des plus grandes prises dans le pays. Les autorités n'ont pas encore communiqué sur la provenance de l'embarcation, de l'équipage et la valeur de la cargaison interceptée.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Hors de l'Afrique, de nouveaux otages doivent être libérés ce mardi en échange de prisonniers détenus par Israël. Cet échange survient après la prolongation pour 2 jours de la trêve dans la bande de Gaza. Les précisions avec Mohamed Oumfa.
10 otages israéliens et 30 prisonniers palestiniens doivent être libérés ce mardi, selon une source proche du Hamas. L'extension de la trêve jusqu'à jeudi 5h GMT doit permettre la libération d'environ 20 otages et 60 prisonniers supplémentaires. Mais, signe d'une situation toujours fragile, un journaliste de l'AFP dans la ville de Gaza a vu l'armée israélienne tirer 3 obus en direction de dizaines de civils qui tentaient de regagner le quartier de Sheikh Radwan. L'armée a affirmé que des suspects se sont approchés des troupes israéliennes et qu'un char a effectué des tirs de sommation, tandis que les mouvements palestiniens ont dénoncé des violations de la trêve par Israël. La prolongation de la trêve permet en parallèle l'entrée de nouveaux camions d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Mardi, de longs convois de camions sont entrés dans le territoire palestinien depuis l'Égypte. Pourtant, malgré l'arrivée depuis le 24 novembre des centaines de camions, les besoins restent immenses et la situation humanitaire catastrophique, selon un émissaire de l'ONU.
Les États-Unis vont envoyer en Égypte 3 avions militaires chargés d'aide humanitaire destinés à la bande de Gaza à partir de mardi, ont annoncé des responsables de la Maison-Blanche. Les appareils, dont le premier doit arriver aujourd'hui même, et les 2 autres suivent dans les prochains jours, seront chargés d'aide médicale et alimentaire ainsi que d'équipements pour l'hiver qui seront distribués par les Nations Unies, ont-ils précisé lors d'un entretien avec la presse lundi, dont le contenu était sous embargo. Plusieurs ministres des affaires étrangères des pays de l'OTAN réunis aujourd'hui à Bruxelles ont exprimé leur frustration face à la Turquie, qui tarde à ratifier l'adhésion de la Suède à l'Alliance Atlantique. Malgré des mois de tractations, le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'est entretenu avec son homologue turc Hakan Fidan en marge de la réunion et réitéré qu'Ankara devrait ratifier l'adhésion de la Suède aussi rapidement que possible. M. Blinken s'était déjà longuement entretenu avec lui lors d'une récente visite dans la capitale turque, alors que Washington et d'autres pays alliés accusent la Turquie de faire traîner les choses. Le pape François va participer comme prévu à la réunion annuelle des Nations Unies sur le climat, la COP28, organisée à Dubaï, a déclaré aujourd'hui le Vatican. Durant sa visite de 3 jours, le pontife des discours principaux samedi et aura des réunions bilatérales le même jour avec environ 30 personnes, dont une vingtaine de chefs d'État, a indiqué le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni. Et puis, engagés dans une véritable course contre la montre, les équipes de secours indiennes ont sauvé aujourd'hui les 41 ouvriers piégés depuis 17 jours dans le tunnel effondré de Silkiara, où des ambulances quittaient l'entrée du site. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Alexandrine Olignon.
Kenya, un tribunal annule le prélèvement sur les salaires introduit par le président William Ruto, le jugeant illégal. Une loi permettant le prélèvement de 1,5% sur les salaires de tous les contribuables kenyans, employeurs compris, a été adoptée en juin pour financer un programme de logements sociaux. 3 juges de la Haute Cour de Nairobi ont estimé que cette mesure ne s'inscrivait pas dans un cadre juridique complet et que l'exclusion des travailleurs informels était discriminatoire et irrationnelle. Le changement climatique pourrait réduire le produit intérieur brut réel de la Côte d'Ivoire de 13% d'ici 2050. Cela pourrait empêcher 1,63 million de personnes d'échapper à la pauvreté si des mesures énergiques d'adaptation ne sont pas prises par les autorités, selon un rapport de la Banque mondiale repris par l'agence Ecofin. La plupart des devises des marchés émergents ont augmenté ce mardi. L'indice MSCI des monnaies des pays émergents a augmenté de 0,2% et s'apprête à connaître son meilleur mois depuis le début de l'année, alors que le dollar risque de perdre plus de 3% en novembre. Au cours de la journée, le dollar est tombé à son plus bas niveau depuis 3 mois avant de se stabiliser.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean Rouget, bonsoir à tous.
Le Mali s'incline en demi-finale de la Coupe du Monde de moins de 17 ans.
Oui, les jeunes maliens sont tombés 1-2 devant la France. Le Mali avait pourtant ouvert le score dans les arrêts de jeu de la première mi-temps par Ibrahim Diarra avant de concéder 2 buts en début de seconde partie. À la 56e et à la 69e, dans l'autre demi-finale, l'Allemagne s'est imposée au tir au but face à l'Argentine, 4 tirs réussis contre 2, après un score de 3-2 à l'issue du temps réglementaire. La finale va se disputer entre la France et l'Allemagne le 2 décembre, mais bien avant, le Mali affronte l'Argentine le 1er décembre lors du match de classement.
Début aujourd'hui des matchs de la 5e journée de la phase de groupe en Ligue des champions en Europe.
Tout est encore possible dans le groupe F, le plus serré des 8 groupes où les 4 équipes se tiennent à 4 points. Le Borussia Dortmund, leader avec 7 points, se rend sur la pelouse de l'AC Milan, 3e avec 5 points. Le Paris Saint-Germain, 2e avec 6 points, doit battre Newcastle pour prendre sa revanche de l'aller, 4-1 pour les Magpies à St. James Park. Les deux équipes ont bien préparé le choc. Paris en battant Monaco 5-2 et Newcastle en cartonnant Chelsea 4-1 en championnat. L'Atlético Madrid a une première balle de qualification pour les 8e s'il gagne au Feyenoord Rotterdam. Moins de suspense dans le groupe G où il ne reste plus que la première place et la réversion vers la Ligue Europa attribuée. Un nul suffit au champion d'Europe en titre Manchester City pour conserver la tête devant le RB Leipzig. L'autre rencontre, Young Boys étoile rouge de Belgrade, va assurer son éventuel vainqueur de la 3e place et d'un accès au barrage de la Ligue Europa. Rebond attendu du Barça dans le groupe H, surpris à Hambourg par le Shakhtar Donetsk 1-0. Le FC Barcelone doit se reprendre à domicile contre le FC Porto, revenu à sa hauteur avec 9 points.
Basketball pour finir avec les résultats de la nuit dernière en NBA. Joel Embiid en triple-double. Philadelphie écrase les Lakers.
Le pivot camerounais de Philadelphie, sacré meilleur joueur de la NBA l'an dernier, a réalisé le 6e triple-double de sa carrière pour mener son équipe à une écrasante victoire à domicile 138-94 face aux Lakers de LeBron James. Joel Embiid a compilé 30 points, 11 rebonds et 11 passes décisives. Dans le duel des mal classés entre Washington et Détroit, ce sont les Wizards qui l'ont emporté 126-107. Avec leur équipe B, les Nuggets, champions en titre, sont allés s'imposer 113-104 à Los Angeles face aux Clippers. À Indianapolis, les Pacers se sont fait surprendre par Portland 114-110. Utah s'est imposé 114-112 à domicile face aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans.
Page des sports VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Burkina Faso, des djihadistes ont mené dimanche une attaque massive contre un détachement de l'armée à Djibo dans le nord du pays. Selon l'agence d'information du Burkina Faso, plus de 400 terroristes ont été décimés lors de la contre-offensive des forces armées burkinabè contre près de 3000 criminels qui ont tenté de s'emparer de la ville de Djibo. Les autorités ont ajouté que quelques soldats ont payé le sacrifice suprême pour tenir Djibo sans donner de chiffres. Pour un témoignage, Yacouba Ouedraogo a joint un habitant de Djibo qui a voulu garder l'anonymat pour des raisons de sécurité.
Justement, je suis arrivé au centre-ville. Vers les 15 heures, on attendait des petits vers le nord. Comme d'habitude, chacun s'est cherché et puis chacun est rentré chez soi. D'habitude, il y a des petits et puis en temps, bon, ça sort et puis bon, c'est fini. Mais ça a duré près de 30 minutes et puis bon, voilà. Parce que c'était vers le nord, en temps, on entendait vers le sud et puis on s'est enfermé. Malheureusement, toute la ville était encerclée.
Djibo était encerclée par qui?
Djibo était encerclée par les terroristes. Ils sont venus avec un nombre très important parce que, quelle que soit ta maison, là où tu habites, l'est, le nord, le sud, tout ce qui vient au centre-ville, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas vu ou senti la présence de terroristes. J'étais chez moi, je suis sur la route et puis bon, ils passaient avec des véhicules, des grosses motos et même des véhicules. Oui, les terroristes, ils chantaient à l'Akbar, ils ont dit on est rentré aujourd'hui, on va tous les égorger. On les a dit de rentrer maison par maison pour les égorger tous. Tout ce qui est homme, on égorge.
Est-ce que vous sentez en sécurité à Djibo présentement?
À Djibo, si on dit qu'on se sent en sécurité, on a menti. Parce que même hier, vers les 7h, il y a eu des tirs encore pour des filles qui ont retenti. Et malheureusement, quand je suis sorti, après les tirs, vers les 9h, je voyais que la maison de mon voisin était brûlée. Et malheureusement, dans le marché, il y a eu des gens qu'on a brûlé leur maison et malheureusement, ils sont restés.
Qui a brûlé?
Et encore les terroristes également.
Dans la ville de Djibo?
Dans la ville de Djibo, puisqu'ils ont brûlé certains dans leur maison parce qu'il y avait les réfugiés, les PDI qui sont venus. Les humanitaires ont fait des tentes pour eux. Il y a un site, ils ont brûlé beaucoup de gens.
Est-ce que l'armée est dans la ville de Djibo?
Oui, effectivement, on sent la présence de l'armée. Ils sont venus avec un homme très important parce que c'est vrai qu'on était là depuis le début, mais pour cette attaque-là, sincèrement, on n'a jamais vu ce nombre-là. Ils étaient beaucoup. Malheureusement, il y a des gens même qu'on a fait toucher et puis égorger. Et ça, on a vu la scène actuellement, moi, je suis dans la psychose.
Des civils ou des militaires?
Des civils qu'on a égorgés. C'est beaucoup de choses qu'on a cachées également.
Quel est l'état actuellement à Djibo? Tout le monde est rentré chez soi?
Oh, le marché a été également incendié. La plupart, donc la partie du marché a été incendiée. Donc du coup, si toutefois le convoi ne vient pas dans ces jours à venir, ça sera vraiment catastrophique parce qu'il n'y avait rien. Et actuellement, comme on a brûlé les magasins, on a brûlé les boutiques lors de l'attaque de dimanche.
Un habitant de la ville de Djibo, dans le nord du Burkina Faso.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Togo, le gouvernement a annoncé que les élections régionales et législatives vont se tenir au premier trimestre 2024. Si les partis de l'opposition affichent leur volonté de participer à ces élections, ils dénoncent des irrégularités liées au recensement électoral
et surtout le découpage électoral de Lomé, la correspondance de Kossi Wosou.
Programmées pour se tenir en principe cette année, les élections régionales et législatives se tiendront finalement au premier trimestre 2024. Se basant sur les conclusions de l'Organisation internationale de la francophonie, qui a jugé le fichier électoral suffisamment fiable, le gouvernement estime que la balle est dans le camp de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Kuigan Yawa, la porte-parole du gouvernement.
Il appartient désormais à la Commission électorale nationale indépendante de proposer un chronogramme pour l'organisation des élections régionales et législatives. Le président de la République a instruit le gouvernement de prendre sans tarder toutes les mesures pour permettre d'organiser les prochaines élections au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année 2024.
Pour ces scrutins, les partis de l'opposition dénoncent certaines irrégularités liées au recensement des électeurs et le découpage électoral qui défavorise certaines régions. Jean-Pierre Fabre, président de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement.
En vérité, quand on regarde un peu le quotient de représentativité, un député de la région maritime représente 141 000 personnes. Mais dans les plateaux, un député représente simplement 65 000 personnes. Vous prenez la région de la Kara, 57 000, ça fait environ le tiers. Mais d'où vient que le régime arrive facilement à nous imposer ce scandale?
Innocent Kagbara, président du Parti démocratique panafricain, estime que la polémique sur le découpage électoral est vaine, car il ne peut satisfaire tout le monde.
Vous ne pourrez jamais trouver une solution qui puisse agréer tout le monde.
Sur quelle base vous considérez que ceux qui sont de telle région du pays, ou bien si le président du parti est de telle région du pays, donc ils vont gagner dans telle région, et dans telle autre région, vous êtes peut-être majoritaire, ou bien vous êtes originaire, vous allez gagner dans telle région. Là, ça pose un problème. Là, votre parti n'est pas national. Si vous êtes un parti national, mais vous êtes capable de gagner.
Alphonse Pogo de l'ANC indique que le découpage est délibérément conçu pour dévoyer les élections législatives au profit du pouvoir en place. Il veut que le gouvernement revienne aux standards internationaux en la matière.
Que le Togo s'affranchisse du carcan des mauvaises pratiques électorales en respectant enfin le principe d'une personne, un vote. Le vote d'un électeur doit être égal au vote d'un autre. La délimitation des circonscriptions électorales et la méthode d'allocation des sièges ne doit pas aboutir à une distorsion de la distribution des électeurs.
L'enjeu des législatives sera surtout la participation des partis de l'opposition pour leur retour à l'Assemblée nationale, car ils avaient boycotté le scrutin en 2018. Kossi Wosou, Lomé, pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24h sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Campagne électorale en République démocratique du Congo, des incidents sécuritaires sont signalés par endroits alors que la mission d'observation électorale de l'Union européenne n'a toujours pas reçu l'autorisation de se déployer. Eddy Sango a joint à Kinshasa l'un des candidats à la présidentielle, l'ancien Premier ministre Adolphe Mozito.
Nous avons commencé d'abord par présenter notre programme, notre offre politique auprès du peuple congolais à travers des radios nationales et la radio internationale aussi. Et donc après cette étape-là, nous allons voyager à travers le pays en commençant par la ville de Kinshasa qui est le chef-lieu ou la capitale de la RDC.
D'autres candidats connaissent des problèmes comme aujourd'hui. Il semble qu'il y a un cas de décès à Kindu même où l'un de vos compétiteurs, Moïse Katumbi, a connu un problème. Et on parle des cas de décès, vous n'avez pas de problème comme ça de sécurité?
Je n'ai pas connu ce problème à ces jours. Je suis désolé pour M. Katumbi et je dénonce cet incident. Et il faudra qu'on établisse la vérité qui est responsable, c'est le pouvoir politique ou c'est des concurrents.
D'autres candidats se plaignent de sécurité par rapport à la garde qui devait vous être accordée. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Vous avez eu la garde suffisamment et vous pensez que c'est équitable pour tout le monde?
Oui, si les principes ils l'ont appliqué pour tout le monde, mais moi je n'ai pas voulu garder ces services de sécurité étant donné que chez nous, les services de sécurité intérieurs comme extérieurs ont des problèmes de revenus, de paiement, de prise en charge de l'État. Et je serai obligé de supplier, ce qui n'est pas possible avec mes ressources actuelles de campagne.
À 3 semaines d'élection, on a enregistré des désistements et même des ralliements du côté de l'opposition. Vous êtes de l'opposition. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que vous allez vous continuer? Est-ce que vous avez des démarches pour que d'autres se rallient à vous? Comment ça se passe?
Oui, bon, moi, je ne veux pas qu'on se rallie à moi parce qu'on veut me soutenir. Il faut soutenir mon programme. C'est lui qui vient avec un programme dont on aura débattu et qui ressemble au mien, qui veut soutenir mon projet. Et en association avec le chef, je suis très content. Je ne veux pas des alliances de personnes, je veux des alliances liées au programme, aux visions sociétales. C'est ça qui m'intéresse, pour que nous allions ensemble pour former une majorité sur fond idéologique et pragmatique. La question n'est pas d'être président sortant ou président entrant, la question ce sont les visions politiques.
Certaines personnes et organisations ont encore un peu de doute quant à la tenue des élections au 20 décembre. Nous apprenons qu'il y aurait même des tractations parce que la mission d'observation européenne pourrait peut-être se retirer. Qu'est-ce que vous en dites?
Je suis désolé, j'aurais aimé que la communauté internationale, avec principalement l'Union européenne, suive les élections et remplisse la mission de témoins d'observateurs. Maintenant qu'ils se retirent, je suis désolé, ça va poser un problème. Mais j'espère que d'ici là, la CENI va nous fixer. Et si réellement elle a des difficultés pour mobiliser les ressources pour la suite du processus, nous le saurons et nous donnerons notre opinion là-dessus.
Adolphe Mouzito, l'un des 24 candidats à la présidentielle du 20 décembre en République démocratique du Congo.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso a appelé la justice à établir les responsabilités sur le drame du stade d'Ornano, ayant entraîné la semaine dernière la mort de 32 jeunes Congolais, tout en réfléchissant sur la problématique de l'avenir des jeunes. Réagissant au message du chef de l'État prononcé à l'occasion de la commémoration de la proclamation de la République du Congo, le 28 novembre 1958, certains Congolais estiment que le discours du président ne rassure pas. De Brazzaville, la correspondance d'Arsène Séverin.
C'est un Sassou Nguesso sobre, costume bleu et cravate violette, qui est apparu devant les parlementaires à qui il a demandé d'observer une minute de silence en mémoire des 32 jeunes tués dans une bousculade devant un bureau de recrutement de l'armée.
Il nous faut analyser froidement les circonstances de cette effroyable tragédie afin de situer pour l'histoire toutes les responsabilités et pour l'avenir, tirer les enseignements et les leçons utiles. Cet événement nous renvoie à la problématique cruciale de l'avenir de notre jeunesse.
Dans les quartiers de Brazzaville, les réactions ne se sont pas fait attendre. Megzan Anima, président du Forum pour la gouvernance et les droits de l'homme.
Je suis resté avec un sentiment de frustration. Le président Sassou est là depuis 1979 avec un intermède de 5 ans en 92. Et donc il est responsable de la situation de désespoir de la jeunesse qui est consécutive à ses politiques hasardeuses depuis 40 ans. Je m'attendais qu'il fasse comme il a fait à la conférence nationale, il a assumé pour lui et pour ses prédécesseurs.
Pour Vivien Manango, coordonnateur national de Debout pour le Congo DPC, le chef de l'État aurait pu pousser les jeunes vers le secteur privé en accélérant en même temps la diversification de l'économie.
Alors que ce que nous voulons, nous, c'est des pistes qui renvoient à des emplois marchands, c'est-à-dire des emplois qui seront créés par le secteur privé. Et de ce point de vue, il n'y a rien eu sous le soleil. Au contraire, le président a acté l'échec de la diversification de l'économie. Et si nous avons une économie qui n'est pas diversifiée, une économie qui repose essentiellement sur la rente du pétrole, comme le président semble l'avoir acté, aujourd'hui ne crée pas d'emploi ou presque rien.
Par ailleurs, le président Sassou Nguesso a annoncé de bonnes perspectives de l'économie congolaise qui va démarrer l'année 2024 avec un taux de croissance de 4% du PIB. Clément Mirassa, ancien ministre du Commerce, est ici en sa qualité d'économiste statisticien.
Le problème avec le Fonds monétaire international ne développera pas le Congo, ne sortira pas le Congo de la crise multidimensionnelle dans laquelle il est plongé et dans laquelle ce sont les responsables, les gouverneurs actuels qui y ont plongé. Donc ce discours suit une logique simple. On a choisi de protéger ceux qui se sont enrichis, ceux qui sont à la base de la souffrance des Congolais.
Denis Sassou Nguesso a délivré ce message à l'occasion des 65 ans de la proclamation de la République du Congo le 28 novembre 1958. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Dion à ce micro, à la mise en onde Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.